Flûte. Ce soir, les séries. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Jean-Christophe Brianchon, Boris Pinault et Grégoire Di Fiore, et prise de son assurée ce soir par Jean-Guilain Maège. Réalisation Daniel Finot. À autour de moi ce soir, Iris Bray, Olivier Joyard, Romain Buren. À notre sommaire, Mindhunter de David Fincher sur Netflix. La saison 9 de Curb Your Enthusiasm de Larry David sur OCS City. Et Loulou d'Alice Vial, Louise Massin, Marie Lelon, disponible sur Arte TV. Présent également dans ce studio. Il regarde inquiet la fenêtre, je ne sais pas ce qu'il a vu. Boris Pinault, en tout cas, il regardera surtout l'écran de l'ordinateur devant lui pour surveiller le fil Twitter Dispute FC et donner à entendre vos commentaires. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour mon premier festival qui se déroule du 25 octobre au 31 dans 14 cinémas parisiens. Et nous ouvrons cette dispute avec une nouvelle production Netflix pour David Fincher, qui avait lancé sur la plateforme avec le succès que l'on sait la série House of Cards avec Mindhunter. Fincher nous propose cette fois un retour à un sujet qu'il aime, un retour dans le temps pour suivre une obsession qui habite son cinéma de Seven à Zodiac et qui concerne les tueurs en série. Et c'est aux côtés de deux agents du FBI, bientôt rejoints par une universitaire qu'on va suivre. La véritable première étude concernant des assassins que l'on ne l'appelait pas encore des serial killers, terme trouvé par les agents en question.
It's not easy butchering people. It's hard work. Physically and mentally, I don't think people realize you need to vent.
You know, there's a lot more like me.
Do you think so?
40 years ago, your FBI was founded hunting down John Dillinger. Now, we have extreme violence between strangers.
We travel around the country and teach FBI techniques to cops.
You guys mind if I bother you for a minute?
She was found cuffed and lashed to the bed.
What people won't do to each other. There's nothing people won't do.
How can we help?
We should be using every resource we can. Talking to the smartest people we find from the broadest possible spectrum.
Are criminals born? Or are they formed?
Psychopaths are convinced that there's nothing wrong with them, so these men are virtually impossible to study. Yet you have found a way in near-perfect laboratory conditions.
Hello, ladies.
That's what makes this so exciting and potentially so far-reaching.
I can't let these guys rub off on me. The way they view sex.
And women.
It is not our job to commiserate with these people. It is our job to electrocute them.
We can't like everything we do. We're talking to serial killers.
Serial killers.
New terminology.
I'm trying to warn you. Your attitude is going to bite you in the ass.
So young to be ruining people's lives.
What did you do?
You're developing a pattern of behavior that will not sustain you here. Agent Ford, if you leave, I can't help you.
There's no procedural rule book for how to talk to these people.
If any of this is going to work, we need to talk to more subjects. More!
You want truffles?
You got to get in the dirt with the pigs.
How do we get ahead of crazy if we don't know how crazy thinks?
Voilà une bonne question, une de plus. Alors, en découvrant à l'audio cette bande-annonce, deux remarques. D'abord, une belle collection d'accents, et ensuite, ça parle beaucoup, ce qui n'est pas tout à fait faux, bon, qui dit toujours que les bandes-annonces sont plutôt une calamité. Là, j'ai l'impression que celle-ci, j'ai pas vu les images, mais j'ai les reconnaît, si je puis dire, m'apparaît plutôt juste. Tiens, on commence avec Olivier Joyard concernant Mindhunter.
Mindhunter, on revient effectivement, comme vous l'avez souligné, dans des terres familières chez David Fincher. Ça fait plus de 20 ans qu'il s'intéresse à ça. On pense moins à Seven, qui était très marqué par une esthétique années 90. Et on peut dire qu'il n'avait peut-être pas complètement trouvé son ton. Et on pense peut-être plus à Zodiac, son film du milieu des années 2000, que moi je considère comme étant son meilleur, son plus fort. et celui où il a trouvé cette durée, cette espèce de façon de filmer des hommes qui recherchent, c'était à la recherche d'un tueur en série à San Francisco, qu'il n'attrapait jamais. Là, le principe est vraiment bien différent, puisque les serial killers qu'on voit, en tout cas à l'écran, la plupart, peut-être il y en a un, on ne sait pas trop, ils sont déjà derrière les barreaux, c'est-à-dire qu'ils ont déjà commis leurs actes. Donc il ne s'agit pas de les en empêcher ou de les arrêter, mais il s'agit d'essayer de les comprendre. Et comme c'était dit tout à l'heure dans l'extrait de la bande-annonce, il faut comprendre la folie pour... comment rentrer dans la folie si on ne sait pas comment les fous pensent, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Et donc c'est effectivement des scènes d'interrogatoire ou de conversation même qui sont extrêmement longues. Et ça, c'est ce qui me plaît le plus dans la série. C'est une forme de radicalité, c'est-à-dire que... On a toujours dit que la télé, c'est des gens qui parlent. Ben là, il le prend au mot. Il le prend au mot quasiment comme Aaron Sorkin pouvait le faire au début des années 2000 dans La Maison Blanche. Aaron Sorkin qui a eu une influence sur Fincher, sans doute parce qu'il a écrit Social Network, son film. Donc Fincher a peut-être appuyé sur cette
peut-être
tendance.
Un de ses plus mauvais, on va dire.
Ça peut se discuter éventuellement.
Oui, non, parce qu'il y a Alien Cube qui dépasse tout, mais en nullité.
Simplement, il y avait quand même cette espèce de logorée interminable,
Olivier.
Je sais. Je me rends bien compte que si vous n'aimez pas Aaron Sorkin, c'est votre
problème. Non, je parle de Fincher.
Oui, mais là, c'était lui qui avait écrit Social Network.
C'était navrant, ouais.
et donc, je trouve qu'il y a deux radicalités dans la série qui m'intéressent. La première, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sang, voire pas une goutte. Et c'est donc une série sur quand même des tueurs en série, sur la violence. Et la violence, elle se passe que dans les têtes, dans les paroles. Donc ça, et dans la mise en scène, c'est-à-dire dans la façon dont on est quand même tendu. Et puis l'autre radicalité, c'est donc de parler sans cesse. Et moi, je trouve cette... Et c'est parce qu'aussi, ils sont à la recherche presque d'un premier mot. C'est-à-dire, ils inventent le mot serial killer. Et ils se retrouvent comme ça. C'est très difficile, en fait, de parler de cette série avec enthousiasme ou en la détestant, parce que je la trouve un peu à l'image de des plans de Fincher qui sont ultra sombres, très marqués par des couleurs, peut-être un peu jaunâtres même. Il y a quelque chose d'assez glacé, voire glaçant, dans la façon dont c'est mis en scène tout le temps. Et c'est surtout, ça va bien avec ce qu'ils veulent dire sur le monde où personne n'a plus de mobile. Le mal contemporain, on ne sait pas d'où il vient. On essaie de le comprendre, on essaie d'y revenir. Donc, ils disent, avant, on avait des serial killers ou des tueurs qui avaient des mobiles. Là, maintenant, c'est fini.
Jaunâtre. Bon, ouais. Peut-être réviser votre poste de télévision. Je ne suis pas sûr que ce soit la dominante qui m'est sautée aux yeux. Iris Bray veut déjà intervenir. Bon, alors je lui donne la parole.
Non, mais parce que je pense que dans les deux derniers épisodes qui sont réalisés par Fincher, si...
Comme les deux premiers.
Oui, exactement. Il y a dans la scène, le dernier serial killer qu'on rencontre, c'est très très jaune. Et quand ils sortent justement de cette salle d'interrogatoire, il y a tous les néons de la ville qui s'allument. Donc on est dans des jaunâtres et des verdâtres qui nous rappellent cet univers de Fincher. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il faut qu'on attende l'épisode 9, en fait, pour que le mot serial killer naisse. Et il y a cette phrase...
On avait des sequences qui balancent.
Et là, il y a cette phrase juste après qui dit « We'll see if it sticks », on verra si ça restera. Donc il y a cet humour aussi qu'on peut retrouver de Fincher. Mais moi, ça me fait en fait beaucoup plus penser au Social Network, parce que j'ai l'impression qu'on voit en fait une série de puceaux. Enfin, c'est vraiment ce qui m'a marqué. Le personnage principal, Holden, est un jeune homme qui découvre sa sexualité. Et à travers la découverte de sa sexualité, la découverte de la sexualité de ces hommes qui ont tué, mais dont justement le meurtre est toujours lié à un acte sexuel. Il va lui-même finalement dans la fin de cette saison se poser la question de lui, qu'est-ce qui l'excite. Et j'ai trouvé que c'était... Il faut attendre l'épisode 8 pour moi pour que ça devienne un peu plus dense.
Un peu. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Mais par contre, d'accord sur le fait que ce soit une série d'éducation, d'émancipation. Mais alors, Romain Burel, lui, il a rencontré Jonathan Groff pour les Un Rock, le comédien, alors qui est de quasiment tous les plans de The Mindhunter. Alors bon, la première question que tout le monde se pose, est-ce qu'il ressemble à Emmanuel Macron dans la vie?
Non, pas du tout.
Voilà.
Je trouvais cette...
Non, mais à l'écran, c'est flagrant, donc comme ça, on évacue. Non, mais c'est vrai.
Je crois que n'importe quel trentenaire un peu bien coiffé, cravate pas trop de travers, ressemble à Emmanuel Macron.
C'est parce que vous l'avez vu en vrai que vous dites ça.
Non, par contre, je trouve le choix de Fincher de Jonathan Groff pas évident et du coup très intéressant.
Pourquoi pas évident?
Bah parce qu'il vient d'un univers qui est pas exactement celui de Fincher, en tout cas sur le papier. L'univers de Glee, des comédies musicales, c'est très très loin quand même de David Fincher. Du coup, je trouve que c'est un choix assez intéressant. Et c'est un choix, enfin, c'était là l'objet de mon article dans Les Inrocks, c'était d'expliquer que c'est un choix intéressant parce que là, il incarne un personnage hétérosexuel en étant lui-même dans la vie. Homosexuel et en plus en ayant incarné d'une manière vraiment très très forte un personnage gay dans la série Looking. Et qu'il y avait un article qui date de quelques années maintenant dans Newsweek qui expliquait que en gros on est un personnage gay, enfin un acteur gay ouvertement gay ne pouvait pas incarner, être crédible dans ce rôle-là, dans un rôle donc de personnage hétérosexuel. Et là pour le coup ce qui est intéressant c'est qu'on voit avoir beaucoup de sexualité.
Ça fera un nouvel épisode pour Sex and the City.
C'est très très bête mais c'est très très vrai à Hollywood. C'est très très bête mais c'est très très vrai à Hollywood aujourd'hui et c'est intéressant parce que je trouve
mais Hollywood a toujours été très très bête sur ces questions-là.
Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, il a énormément de sexe dans les deux premiers épisodes, des épisodes qui sont signés par Fincher d'ailleurs. Et je pense que ça c'est pour un peu pour nous vendre son hétérosexualité pour nous montrer qu'il est tout à fait capable de le faire.
Moi je le connaissais pas donc il avait rien à me vendre. Et je trouvais ces scènes absolument logiques par rapport à ce que raconte la série, ce que disait tout à l'heure Iris Bray.
Et en plus, très très belle, très très belle, et on y croit, quoi, du coup. Donc, ça, pour le coup, je trouve que c'est une donnée assez intéressante. Et puis, encore une fois, autant il peut adorer Fincher, mais il vient pas de cet univers-là, il vient d'un univers plus coloré. Je parlais de Glee tout à l'heure, parce qu'il a commencé sa carrière dans Glee, qui est une série où on chante beaucoup. Il vient de Broadway, donc c'est pas un rôle dans lequel je le voyais. Moi, je le trouve assez
impeccable. C'est un vrai comédien, on va dire. Ça, oui, comme exactement. Ça. C'est peut-être que alors c'est normal qu'un réalisateur fasse des castings et se dise qu'il peut voir des gens qui viennent.
Mais nous, on aurait très bien pu ne pas matcher. En tout cas, on aurait pu ne pas y croire en disant voilà, il est pas très crédible, etc. Et moi, je le trouve assez impeccable.
Bah, écoutez, moi, je l'ai découvert dans Mindhunter, comme ça, la question se pose pas. Et je le trouve très bon. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais dès les deux premiers épisodes, moi, j'ai pas attendu le 8e ou le 9e parce que justement, cette place très importante à la parole, pour moi, elle est vraiment essentielle parce que la parole est EST, l'action, en tout cas dans ces deux premiers épisodes. Ensuite, il y a quand même, moi je trouve, pas un ventre mou, mais un changement de voix, et on est dans des enquêtes, des résolutions, des énigmes, des interrogatoires, et j'ai un peu craint que la série nous dérive sur une sorte de série policière basique, où il y a une toile de un récit de fond, et puis à chaque fois une résolution d'enquête. Heureusement, vers la fin, à nouveau, mais c'est quand Fincher reprend la main. Alors peut-être qu'il se teste les bons épisodes, je ne sais pas. Il en réalise 4 sur 10. Ça devenait un peu commun au milieu de la saison, on va dire 4, 5, 6, 7, ce qui fait quand même beaucoup. Mais il y a en même temps des fausses pistes. Enfin, il y a des choses dont on attend. Alors, j'aime pas beaucoup non plus toutes ces ouvertures d'épisodes où on voit un personnage mystérieux qu'on nous vend donc pour la saison 2. Ça m'agace un petit peu.
C'est assez à la mode en fait.
Ouais, mais ça m'agace. C'est comme le chat dans le sous-sol. Enfin, bon.
Ou le cowboy dans Preacher aussi qu'on nous.
Oui.
Des choses comme ça.
Voilà, moi ça m'agace un petit peu. Ce sont des tics dont je me serais passé. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont vraiment les confrontations avec les serial killers. D'ailleurs, il me semble que nous avons Boris Pinot, quelqu'un qui nous fait noter que.
Oui, Anne-Lise remarque, voilà. Qui tient à saluer la performance de Cameron Britton, qui interprète donc Ed Kemper, l'un des tueurs étudiés par les deux enquêteurs. Il mériterait, dit-elle, autant que les enquêteurs de figurer sur l'affiche de la série.
Oui, puis au niveau accent, il est pas mal aussi. Enfin, il a une présence, pas seulement physique, mais il a une force de présence à l'écran très très grande. Olivier Joya,
je trouve vrai ce que vous dites sur le fait que c'est quand même les épisodes réalisés par Fincher qui sont les meilleurs. Ça peut pas être complètement un hasard.
Non.
Moi, je suis pas forcément féru de l'auteurisme vraiment absolu par rapport aux séries, mais aujourd'hui les réalisateurs qui viennent du cinéma et qui s'occupent de séries ont quand même tendance à réaliser une grande majorité des épisodes, voire tous les épisodes. Ça a été le cas de Soderbergh avec The Nick, par exemple. Ça a donné quelque chose d'extrêmement cohérent. Et là, on voit vraiment que les deux premiers, les deux derniers sont assez magistraux. Même si, bon, le premier est peut-être un tout petit peu, comment dire, scolaire dans ce qu'il raconte.
Oui, c'est vrai.
Enfin, ça reste quand même, il y a une tension, quelque chose d'extrêmement précis sur les gestes, sur les... Moi, j'adore comment il filme les hommes. C'est vraiment le sujet de son cinéma. Et on parle de masculinité, de Jonathan Groff. Tous les hommes et toutes les masculinités qui filment sont intéressantes. Il y a son partenaire aussi qui est plutôt un bourru,
formidable.
Un peu beauf. Et puis il y a les serial killers qui ont tout le monde a un problème avec son pénis, en gros, dans cette série. C'est un peu le sujet de... Oui, donc avec sa mère. Et c'est un peu le sujet de Soderbergh depuis quand même assez longtemps, de Fincher depuis très longtemps. Donc moi je trouve ça vraiment bien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que l'unité où il travaille s'appelle l'unité des sciences du comportement. Et j'ai presque envie de dire que c'est une façon pour Fincher de dire « Ok, c'est maintenant les séries qui vont être la science du comportement. C'est ça que je vais vous raconter ça aussi, la naissance de ça. » Je trouve que ça, bon, je sais pas si c'est moi qui tire un peu des fils comme ça, mais...
On est là pour ça.
Il filme un peu là où sont arrivées les séries, comment elles sont devenues, l'art d'entrer dans la tête des personnages. En fait, ce que font les personnages de Mindhunter, le personnage de Jonathan Groff, c'est d'essayer d'entrer dans la tête des serial killers. C'est ce que font aussi les séries aujourd'hui. C'est quand même un art de la psychologie. Alors pas forcément où tous les ressorts sont uniquement psychologiques, mais il y a quand même quelque chose de mental, de rentrer à l'intérieur des gens. On se dit que le cinéma, en tout cas aux États-Unis, l'a largement abandonné, que c'est plus tout à fait cet aspect-là qui l'intéresse. Et donc, moi, j'ai l'impression que c'est presque comme si Fincher disait « Ok, bon ben voilà, quoi. Aujourd'hui, c'est les séries, il faut faire des séries. »
Et en même temps, je crois que là... Cette série-là, elle aurait pas eu du tout la même forme si elle avait été par un autre network que par une plateforme de streaming comme Netflix. On n'a pas de cliffhanger à la fin des épisodes. On est quelque chose sur
ça. Le scénariste a dit quand tout... pas de cliffhanger avec moi.
Oui.
Le scénariste de Mindhunter, il a dit ça.
Mais en tout cas, c'est quelque chose de très différent. Si c'était fait par HBO, typiquement, ce serait vraiment quelque chose de complètement différent.
Et même parmi ces épisodes faibles, je vous interromps un instant, vous avez remarqué qu'il y en a un qui fait 35 minutes, l'autre 40, alors que ceux de Fincher, ils font une heure, hein, généralement. Donc, mais ça, c'est la liberté. Ça, je trouve ça formidable, la liberté des plateformes pour ça aussi, de pas s'imposer une durée.
Et moi, en commençant à regarder la série, ce dont j'avais très très peur, c'était de revoir une énième série sur les serial killers. Quoi. Mmh. Et Dieu sait qu'on en a aujourd'hui. Enfin, je pense à des choses de plus ou moins bonne facture, de Esprit criminel à Profiler, ou on pense aussi au Silence des agneaux, etc. Et on se dit juste, est-ce que j'ai vraiment envie de réavoir ça? Est-ce que ce que la série évite absolument, c'est justement c'est les poursuites en voiture avec sortie de pistolet, arrestation, etc. Et du coup, c'est vrai que c'est très très agréable de raconter cette histoire qui du coup est assez logique en plus dans le cinéma de Fincher, qui est donc de raconter l'origine de ce qui a nourri son cinéma pendant plus de 20 ans, qui est donc ce moment où la psychologie universitaire va rencontrer la police pour pouvoir arrêter ces serial killers. Ce qui est là où je suis moins convaincu au départ, c'était que je me disais, bon, c'est quand même très très masculin tout ça.
Y venir, oui.
Et finalement, enfin en tout cas sur les deux premiers épisodes, parce que pendant très longtemps les critiques n'ont pu voir que deux épisodes.
Oh les pauvres.
Ouais. Et en l'occurrence, bon, ça devient un peu plus intéressant dans la suite de la série, mais c'est vrai que ça reste quand même très très blanc. Et en plus, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup dans la série, c'est le fait que quand même tous ces serial killers, tous ces détraqués entre guillemets, bah ils sont quand même tous très très pauvres, et qu'il y a une espèce de lecture un peu prolétaire du mal, quoi. On a l'impression en tout cas que il y a pas de serial killer, les serial killers sont forcément de base d'extraction, quoi. Je trouve ça m'embête un petit peu dans cette première saison.
Bah, sauf que justement le docteur Wendy Carr nous dit que rien ne ressemble plus à un serial killer qu'à un PDG de grandes multinationales. C'était une des premières choses qu'elle dit.
On le voit pas dans la série, c'est ça,
oui,
qui m'embête.
Mais en même temps, c'est dit quand même. C'est pas n'importe quoi. Et puis, par ailleurs, c'est quand même extrêmement documenté. Et j'imagine que... Mais faites la recherche pour la prochaine fois. Les dossiers statistiques indiqueront sans doute que sur un nombre X de serial killers, il y a un fort pourcentage de gens qui viennent d'un milieu peu aisé. Mais je voulais interroger Iris Bray, spécialiste évidemment, sur ce personnage du docteur Wendy Carr, qui a plusieurs particularités. Je suis pas sûr de saisir toutes les nécessités de ces particularités.
Ben, enfin, la manière dont elle est définie d'abord, c'est qu'elle est lesbienne. C'est intéressant vu que Fincher, comme Olivier l'a déjà dit, est obsédé par la masculinité. Donc on est de toute façon avec des personnages qui sont en crise tout le temps vis-à-vis de leur masculinité. Qu'est-ce que c'est qu'être viril? Qu'est-ce que c'est comment faire l'amour à une femme? Et ce personnage féminin qui devrait être un des personnages vraiment central, ça devrait être le troisième homme finalement, et en fait ça devient le troisième homme.
Ouais.
C'est-à-dire que le fait que ce soit une femme, on s'en fiche, puisque finalement, elle est one of the boys, quoi. C'est le boys club, ça va être un des garçons, enfin, c'est vraiment comme ça finalement qu'elle va être intégrée, puisqu'on va tout de suite présenter son identité, son orientation sexuelle comme étant un fait déterminant. Or, il y a un autre personnage féminin qui est la petite amie de Holden, qui va être vraiment un personnage récurrent, mais elle, on va jamais savoir ce qu'elle pense. Mmh. C'est-à-dire qu'elle va toujours rester un personnage secondaire.
Elle écoute.
Elle est là pour écouter.
Elle est là pour écouter, comme il dit son chéri.
Mais moi, quelque part, ça me dérange pas qu'il y ait que des hommes, mais j'aimerais en fait qu'on creuse plus cette question de la masculinité en crise, parce que moi, je reste sur ma faim. J'ai l'impression toutes ces conversations autour de la psychologie, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans quelque chose presque de trop simpliste et qu'on reste à la surface. Allons plus avec les personnes qui ont tué. Comprenons le trouble de Holden. Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est cette fascination qu'il a aussi. Et peut-être aussi une attirance qui va... Il y a une attirance. Mmh. Est-ce qu'elle va devenir sexuelle aussi ? Enfin, je pense qu'il y a plein de choses vraiment à explorer. J'espère que la saison 2 le fera.
Ouais, on aurait préféré que ce soit davantage creusé dans cette saison 1. Mais c'est vrai que ces épisodes du milieu en numérotation nous font un peu perdre du temps et du coup on reste beaucoup à la surface, Olivier Joyard.
Moi je trouve qu'effectivement, pour aller dans le sens de ce que dit Iris, et Fincher il veut vraiment explorer l'humain, mais il a du mal à le filmer en fait, ça met très très longtemps à sortir. Et là il y a quand même et c'est les masques qui l'intéressent plus au fond et comment les masques se craquellent, mais on comprend pas toujours le moment décisif en fait qui fait que ces masques se craquellent. Là, il y en a un à la toute fin de la saison, qui est vraiment très beau dans le couloir, qu'on va pas révéler. Et il filme tout ça pour en arriver là. Je pense que c'est très important pour lui. Et voilà, donc on peut effectivement trouver... Enfin, c'est à la fois une forme de qualité, parce qu'il fait les choses très en longueur, il sait exactement où il veut aller. Et c'est aussi une façon de tourner un peu la tête sur les choses les plus dures, quoi, de ne pas aller vraiment au fond.
Oui, bon, maintenant, il va falloir attendre, c'est malin, la saison 2, pour voir si Fincher arrive à creuser et s'y colle lui davantage, qui réalise tous les épisodes, ils auront tous de l'intérêt, peut-être comme ça. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire ce soir dans le temps qui nous était imparti sur Mindhunter de David Fincher, qui est disponible donc sur Netflix. À suivre dans la dispute, Curb Your Enthusiasm et Loulou.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Alors, on change de registre ce soir dans l'émission consacrée aux séries avec un retour que l'on attendait plus, celui de Larry David dans la série Curb Your Enthusiasm, qui propose donc une 9e saison, 5 ou 6 ans après la saison 7. Après la saison 8, on en est à 9, c'est ça, ouais, donc après la saison 8, ce qui est logique. Larry David, c'était le showrunner de la géniale série Seinfeld qui a fait mon bonheur dans les années 90. En tout cas, il était showrunner pendant les 7 premières années et puis il a signé l'épisode final de la saison 9, je ne me trompe pas, je crois, cette fois. En octobre 2000, Larry David avait lancé Curb Your Enthusiasm, dans lequel il se met en scène sous le mode du faux documentaire.
The grave injustice has been done here. We are no better than the beasts in the field. For I'm not doing this for me. I did it for you, and you, and you.
That's enough.
Did you listen to one word? Yoo-hoo.
Did you just yoo-hoo me?
Oh, well, you can't yoo-hoo a judge?
You're devoid of anything that's remotely caring or empathetic.
Shut up.
That is a great compliment.
You don't come to work for 2 days because you were constipated?
Yeah, luckily it was only 2 days.
People do things constipated.
Come on, I saw a porno constipated. I ran a 5K marathon constipated. I was in a hot dog eating contest constipated. And I still fucking won.
Enigma.
Fuck!
I enjoy the mind of Larry David.
Anytime you want to get rid of me as a patient, just say, I've had enough.
Oh, dear God.
I'd like you to leave, Larry.
Out.
I want you to go. Out of my house.
Thank you for leaving!
If I see you on my bus again, I'm gonna fuck you up.
Okay. Hey, I can't look at this.
Two people aren't allowed to be happy?
Well, you're allowed to be happy, but not in front of me, so...
Curb Your Enthusiasm, est-ce qu'il faut que je vous le demande à vous, Romain Burel, le retour de Larry David?
Alors moi au départ, je connaissais pas trop, j'avais vu quelques épisodes par-ci, par-là des premières saisons de Curb Your Enthusiasm. Au départ, pour m'intéresser au nombril d'un homme hétérosexuel de plus de 50 ans, blanc...
Parce que vous êtes sectaire, Romain.
C'est pas gagné. Mais, pour le coup, je dois avouer qu'en fait, je trouve la série à hurler de rire, quoi.
Bon, que vraiment... vous arrêterez avec vos préjugés à l'avenir.
Non, mais surtout que c'est, au départ, ça pose un personnage qui semble très très loin de nous, je veux dire... qui habite à Los Angeles, qui produit des comédies pour Hollywood, etc. On pourrait qui a énormément d'argent. Donc
c'est vous dans 5 ans, ça.
Ouais, c'est pas gagné. Mais en tout cas, voilà. Au départ, on se dit c'est vraiment très très long. Et en fait, l'art de Larry David, c'est d'arriver à montrer qu'en fait, on lui ressemble énormément, notamment dans nos travers et dans les.
Surtout.
Et là où il est vraiment très très fort, c'est qu'en fait, ces histoires reposent sur à peu près rien, quoi. À peu près
trois fois. Ça me rappelle quelque chose, tiens, une série sur rien. Vous regardiez pas
Seinfeld
non plus ?
Oui, bien sûr.
Vous regardiez pas non plus ?
Si, mais pour le coup, ouais, c'est vraiment. Je trouve que c'est. Je comprends que les gens qui ne marchent pas dans cet humour, parce que c'est un humour assez fin, et assez particulier, auquel on peut ne pas se sourire. Mais quand on rentre dedans, je trouve que vraiment c'est vraiment vraiment délicieux, quoi.
Alors à peu près rien, sauf que c'est quand même très très, je donne déjà mon avis, très 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 bien écrit, Iris Bray.
Oui, c'est très bien écrit. Il y a cette idée que c'est une comédie qui ne va jamais vieillir, enfin qui sera toujours là, qui nous fera toujours rire. Et en même temps, la première scène de cette saison 9, c'est le corps vieillissant de l'acteur sous la douche.
Ben
oui,
c'est gonflé. Hein.
Oui, je pense qu'il y a quand même une prise de conscience du temps qui passe.
Et il lui arrive quelque chose qui nous arrive à tous. Et là, Romain Burel se sentit concerné avec, vous savez, ces trucs de savon dont il faut tourner le haut pour...
gel douche.
C'est vraiment là son génie.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Savon.
Oui, gel douche. De savon. Ben, c'est du savon qu'il y a dans le
oui,
savon à l'intérieur.
Oui, c'est dans une bouteille.
Mais je ne suis pas sûr que ce soit du gel douche. C'est peut-être du savon dans ce type de bouteille.
Bon, un débat de fond.
Oui, je crois. On va revoir l'épisode ensemble. Donc.
Mais donc, et en même temps, pour moi, ça reste une série un petit peu vieillot et un petit peu datée. Je pense, par exemple, dans le premier épisode, il y a tout un truc autour d'une lesbienne butch, donc une lesbienne qui est très masculine, à qui il ne sait pas s'il faut tenir la porte ou pas. Et ça, c'est très drôle, mais après, dans un second temps...
Mais il y a la distance, le facteur distance qu'il
faut
pas oublier.
Il y a le facteur distance, évidemment, ça c'est très drôle, c'est très bien écrit, mais après, dans la deuxième partie de l'épisode, cette femme va lui couper les cheveux chez lui et va lui annoncer qu'elle va se marier, et là, il lui dit, moi, je pense que tu ne peux pas être the bride, enfin, la mariée, tu devrais être...
Le marié.
Le marié. Et donc...
Sa future femme veut l'inverse.
Alors que sa future femme est très féminine. Et là, je trouve qu'on est dans quelque chose de très vieillot. Enfin, je trouve
c'est le monde vu par quelqu'un de 70 ans. Vous
ne
pouvez pas oublier ce facteur quand même.
Et
c'est écrit
oui,
à la première personne.
Tout à fait, mais je trouve que du coup, dans ces moments-là, pour moi, ça devient beaucoup moins drôle. Et beaucoup... Pour moi, là, je ne m'identifie plus à lui. Mmh. C'est-à-dire autant quand il est dans sa douche et qu'il a du mal à ouvrir son savon. Son gel douche. Là, ça peut arriver à tout le monde, à n'importe quel âge. Autant faire ce genre de réflexion et de pousser un peu comme ça, je trouve que...
Bon. C'est un élément d'un épisode, Iris Bray. Vous n'avez pas.
Oui, mais moi, j'en ai vu que trois de la saison 9. Donc
ouais. Mais il y a tout le reste. Enfin, il n'y a pas que ça dans ces trois premiers épisodes non plus, par ailleurs.
Non plus.
Bon, faisons le tour de table. Continuons. Olivier Joyard sur Larry David.
Moi, Larry David, c'est un peu un héros personnel. Donc, forcément, j'attendais ça avec une énorme impatience. Et surtout parce que. Il a fait ce qui est pour moi déjà la plus grande sitcom des années 90, donc Seinfeld, effectivement, qui était marketé comme une série sur rien. Et ensuite, il a fait le déni de la forme de la sitcom, c'est-à-dire que ça, Curb Your Enthusiasm, qui est arrivé donc 2 ans après la fin de Seinfeld, c'est comme si on desséchait complètement la sitcom. Il y a plus les rires, il y a plus du tout la même exigence de rythme. C'est au fond beaucoup de conversations comme ça. C'est absolument pas écrit en fait. C'est-à-dire que Seinfeld était écrit au cordeau, ligne par ligne. Là, ils écrivent des scripts, disons de quelques pages, qui racontent ce qui va se passer et la situation. Et ensuite, c'est des improvisations des acteurs, ce qui est une forme d'écriture, hein. Mais et donc j'ai bien aimé. J'ai toujours aimé son audace formelle en fait à Larry David et son audace thématique qui allait très bien avec le début des années 2000 En gros, il était contre le politiquement correct pour aller vite, quoi, ce qu'on appelait à l'époque comme ça. Et c'était ce personnage de celui qui rentre toujours dans les problèmes. Enfin, qui va toujours. Il y a un problème avec les tickets au parking, à la caisse d'un supermarché. Il lui arrive des trucs complètement que moi je trouve toujours. Il y avait un épisode où il était en train de cacher une bouteille en verre dans son pantalon, je ne sais plus pour quelle raison. Et il y a un enfant qui arrive vers lui et qui le serre contre lui. Donc forcément, il y a une espèce de gêne liée à la situation dans son pantalon. Il va vers ce genre de choses-là et il a toujours été à la fois intemporel et assez contemporain finalement dans son espèce de... Cette façon aussi de voir Los Angeles comme une ville de l'oisiveté. Il travaille à Hollywood, enfin il a toujours travaillé à Hollywood et il joue son propre rôle dans la série. Son propre rôle de type qui a gagné des millions de dollars avec Seinfeld et qui n'a plus rien à foutre de sa vie, en gros. C'est aussi une série sur l'ennui. Je dirais que c'est plus une série sur l'ennui que sur une série sur rien. L'ennui, c'est quand même un beau sujet. Et là, il est un peu rattrapé par ça, un tout petit peu, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'il y a moins de pertinence. C'est effectivement un homme blanc de 70 ans, aujourd'hui, qui fait comme si on était en 2000. La catchline, enfin, le slogan de cette saison, c'est il est parti, il n'a rien fait, il est revenu. C'était évidemment Jules César, etc. Mais et là, je suis un tout petit peu gêné par ça, en fait, par cette espèce de me dire qu'au fond, est-ce que vraiment on peut faire les mêmes blagues aujourd'hui qu'en 1998? C'est une question qui se pose.
Oui, mais
quand on est la même personne.
Mais vous noterez aussi quand même que la série a beaucoup évolué formellement. C'est vrai que si on regarde la première saison aujourd'hui, c'est vraiment... Bon, la technique, c'est pas la même image, mais on est sur des caméras à l'épaule, en mode mockumentary. Je sais pas comment traduire ça en français, donc... documentaire moqueur. je suis pas sûr que ça prenne. Ça prendra pas autant que Serial Killers, mais je pense pas. Et avec beaucoup d'improvisation, auquel je crois à moitié... Moi, je pense qu'il y a quand même une bonne part de légende, parce que quand je parle d'écriture très fine, c'est que d'une séquence à une autre, il y a des tout petits faits dans une séquence qui vont venir cinq séquences plus loin pour finaliser un gag ou une situation, une absurdité. Donc ça, c'est forcément très écrit, Iris Bray.
Oui, je suis d'accord. Moi, ce qui m'intéresse, en tout cas dans ce qu'on voit et dans ce qui est raconté, c'est l'idée de la boucle. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que la boucle est bouclée. Mais ça aussi...
Mais comme dans Seinfeld, c'était le génie de Seinfeld aussi.
Comme dans Seinfeld, mais je pense que le problème de ces histoires de boucle, c'est qu'il y a aussi l'effet de répétition qui parfois est très... agréable parce qu'il y a quelque chose de très réconfortant en fait dans l'idée de la boucle, mais en même temps pour moi il y a des sketchs, il y a des gags qui sont presque trop longs. Et là au troisième épisode ils disent, parce que bon ils sont dans un restaurant et il y a un problème en cuisine et leur plat n'arrive jamais et donc ils commencent à vraiment s'énerver et ils ont cette phrase, ils disent that whole disturbance thing threw us for a loop. En français on traduirait ça par dérouté, mais en anglais on a ce mot loop qui est vraiment cette idée de boucle qui est tout le temps là, qui à mon avis est même présent à chaque moment dans tous ces gags. Et voilà, je pense qu'il faut être dans une certaine disposition d'esprit pour soit trouver ça très agréable et réconfortant parce qu'on sait où ça va et on sait que rien n'est laissé vraiment au hasard dans ces petits détails dont vous parlez. Et c'est toujours agréable de sentir qu'on va jusqu'au bout de quelque chose. Et en même temps, parfois, ça dure trop longtemps. Les gags durent trop longtemps.
Oui, mais il joue toujours sur cette dimension obsessionnelle de son propre personnage, comme c'était le cas dans un épisode fameux qui réunissait toute l'équipe de Seinfeld, où il s'agissait de savoir qui avait laissé une trace de rond de tasse de café sur un meuble en bois très, très précieux. Et ça arrive, ça revenait comme ça dans différentes séquences et ça venait clore d'une façon absolument terrible l'épisode. Puisque des retrouvailles n'avaient pas lieu à cause de cette obsession. Enfin, moi, la dimension obsessionnelle, ça me fait énormément rire. Mais c'était déjà le cas avec Seinfeld. On est sur les mêmes ressorts de comédie. Romain Burel.
Ce qui est drôle, c'est qu'on pourrait le haïr absolument, le trouver hyper antipathique, etc. Et puis finalement, on finit par le trouver quand même, c'est un héros en fait. C'est un petit peu il a une capacité d'indignation pour des petites choses qu'on finit par trouver admirable. On se dit, j'ai pas la moitié de ce courage dans ma vie quotidienne. Ça doit être épuisant d'être Larry David.
Non, mais c'est ce qui est bien, c'est qu'il est aussi haïssable qu'aimable, et on se dit quand même attaquer Michael J. Fox en disant que la Parkinson c'est un alibi pour faire plein de choses désagréables et qu'évidemment on peut pas y toucher, plus politiquement incorrect, c'est quand même extraordinaire, sachant que Michael J. Fox évidemment joue dans cet épisode consacré à cette question là mais quand on a une idée aussi géniale que de faire une comédie musicale à Broadway qui s'appelle Fat War, et qu'on se retrouve effectivement à déjeuner avec Salman Rushdie, le vrai Salman Rushdie dans la série, il y a aussi quand même ce plaisir du guest dans Curb Your Enthusiasm.
Ouais, surtout que la discussion avec Rushdie tourne autour de la sexualité. l'absurdité de ce que ça
sexe.
Peut. C'est ça. Est-ce qu'on est un plus grand séducteur quand on a une fatwa sur nous?
Bah oui.
Voilà. Donc
visiblement,
c'est effectivement, oui. Moi, je trouve cette scène, j'ai vraiment adoré. Je trouve ça assez puissant. Et ensuite, c'est aussi une façon pour lui, là, pour le coup, de se rattraper un peu sur le contemporain, d'essayer de dire, bah voilà, je vais parler d'un sujet, puisque lui, son personnage, enfin, lui est juif, mais son personnage est juif, surtout. Donc, il y a absolument pas de hasard dans ce qui est fait là. C'est de l'humour juif appliqué. La fatwa fait partie de l'humour juif. C'est quand même un peu le génie de la réalité. Donc ça, moi, ça me plaît énormément. Et je trouve que il y a des scènes avec des cookies aussi dans un hôtel que je trouve fantastique.
Avec ou sans pince pour les prendre.
C'est ça. Il y a une pince qui tombe par terre et la femme la ramasse et il lui fait remarquer qu'elle vient de la reposer. Enfin, c'est vrai que je trouve qu'il y a une...
dit pas deux fois, mais ça c'était Seinfeld.
Ah, c'est ça.
C'est la même
Seinfeld
chose.
Seinfeld a tout inventé. Mais donc voilà, c'est un tout petit peu ma limite, c'est-à-dire qu'on se retrouve en terrain familier.
C'est le côté doudou dont parlait Iris Bray, c'est vrai. Il y a quelque chose de comme ça. On est content de le retrouver.
Avec des épines quand même.
Hein, ah, beaucoup. Beaucoup.
Moi, je trouve le retour de la série aussi réussi qu'une autre sitcom qui vient de revenir, qui s'appelle Will & Grace. Je suis assez surpris de voir que ces deux sitcoms tiennent encore la route après ne pas avoir été à l'antenne pendant plusieurs années. Le défi, c'est de savoir si elles sont encore aujourd'hui pertinentes et si elles vont réussir à absorber l'actualité. Et voilà. Alors, Will & Grace s'est débarrassé, enfin saisi ça dès son premier épisode de retour, en mettant une scène directement à la Maison Blanche dans le bureau de Donald Trump. Mais donc là, pour inscrire le fait, voilà, on sait qu'on ne peut pas faire la même série qu'il y a quasiment 9 ans aujourd'hui. Donc voilà, il reste encore des réglages à faire, notamment parce que la série reste très très blanche et pas toujours très très en point sur certaines questions les questions LGBT du jour aujourd'hui. Mais en tout cas, on voit cette volonté d'inscrire la série dans quelque chose de plus actuel. Je trouve quand même elle vieillissent bien, en tout cas, ces deux sitcoms.
Un commentaire, Boris Pinot.
Oui, de Domi Bourzac, qui semble goûter peu l'humour de Larry David et qui pose une question proche de celle que vous formuliez tout à l'heure, Olivier. L'humour new-yorkais à la Woody Allen ou à la Seinfeld serait-il devenu définitivement suranné?
Est-ce que vous voulez répondre?
Déjà, Woody Allen et Seinfeld, finalement, ça, c'est bon. Je vois ce que veut dire l'auditeur.
Non, mais Larry David avec un postiche et une moustache, on dirait Woody Allen quand même.
Un peu, oui. Et est-ce qu'on a envie de du cinéma de Woody? Je sais pas. Je suis assez. En fait, voilà. Ce que j'aime bien, c'est quand les vieux se mettent en scène comme vieux. J'aime beaucoup les films se mettre en scène ou mettre en scène d'autres, mais les films tardifs de Hawks ou de John Ford, j'adore. Là, je trouve qu'il n'y a pas cette majesté-là qu'il peut y avoir dans les gestes, mais y compris chez les humoristes.
C'est parce qu'il n'est pas assez vieux.
Peut-être. Il faudrait qu'il atteigne 80 ans. Là, il n'est que 72.
Ouais, c'est beaucoup trop jeune. C'est un jeune homme.
Voilà, donc on a la réponse.
Mais à propos du retour des séries, Boris, un autre tweet.
Hiver suédois qui nous conseille de faire une émission spéciale sur les séries d'avant.
Et qui propose quelques titres.
Genre Street Blues, Cosmos 99 ou 99, je ne sais plus.
Je ne sais plus, oui. Mais bon, ça pourrait être une question. Mais plutôt que de revenir en arrière, s'intéresser au présent. Mais est-ce que c'est vraiment, vous disiez au goût du jour, Romain Burel, est-ce que c'est vraiment le propos de Larry David de parler d'aujourd'hui? Parce que quand on parle effectivement de la difficulté d'ouvrir un flacon de gel douche ou de savon, évidemment, c'est pas une question spécialement contemporaine. Romain Burel, d'abord.
En tout cas, c'est en tant que spectateur, c'est ce dont on voudrait le voir se saisir. En tout cas, moi, c'est quand j'ai regardé ça, j'espère qu'il va me parler un petit peu de mon.
Iris Bray-Bois, non. On s'en fiche de ça.
Non,
mais il y en a d'autres qui peuvent le saisir autrement.
Il y a cette obligation de. Par l'épisode 2, on a aussi Trump. On parle de Trump, il est en train de faire l'amour à une femme musulmane qui lui dit insulte-moi. Et là, il dit
tout le cabinet
Trump,
de...
Mike Pence. Ça,
tout le monde
est très drôle.
Ouais.
Donc, mais en même temps, moi,
ça suffit.
Je pense pas qu'on ait besoin de cette série pour s'emparer de ces choses-là. Je pense qu'il y a des séries très contemporaines qui font ça vraiment mieux.
Oui, donc c'est plus l'objet. Olivier Joya.
Pourquoi pas? Moi, je veux bien. Mais encore une fois,
demander.
Je voudrais qu'il aille. Dans ce cas, peut-être ne pas parler de fatwa, ne pas parler de contemporain,
ça date d'il y a 25 ans.
Oui, mais on voit bien qu'il essaie de raccrocher à quelque chose qui se passe aujourd'hui dans les sociétés. Mais. Oui, moi je préférerais qu'il s'assume comme vieux, en fait, c'est vraiment ça qui m'intéresserait. Qu'il mette en scène quelque chose comme le fait qu'il n'arrive plus à faire les mêmes gags ou qu'il n'arrive plus à dire les mêmes choses. Je sais pas, c'est peut-être une piste moi, que j'aimerais le voir explorer.
Bon, il a toujours cette démarche absolument unique quand même. Larry David.
Burlesque. Ah oui, là c'est un burlesque.
Extraordinaire,
pour le coup, c'est un corps burlesque rare et vraiment. Là, j'ai envie que ça dure très très longtemps.
Bon. pas de Cannes encore, mais on retransmet le message, bien sûr, à Larry Levin. La saison 9 de Curb Your Enthusiasm est diffusée sur OCS City.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the
right. Le troisième sujet de cette dispute série ce soir, c'est Loulou d'Alice Vial, Louise Massin, Marie Lelon, disponible sur Arte TV, une web série de 11 épisodes de 5-6 minutes qui s'intéresse à la grossesse de Loulou, financée au départ par la plateforme Ulule. Loulou a reçu le prix de la meilleure série digitale à Sérimania.
Loulou, il y a un truc que je comprends pas, tu prends la pilule ?
Oui, je prends la pilule et puis parfois je la prends pas.
Oh, super. Non mais y a pas de stress les gars, moi je connais un toubib, un spécialiste, j'ai un coup de fil à passer, c'est réglé. Hein.
Ah, il fait ça par téléphone ?
Attendez, est-ce qu'on est bien sûr qu'elle est enceinte ?
Mais pourquoi ?
Depuis quand on fait confiance à un truc de labo pharmaceutique ? C'est de l'arnaque totale, ça c'est pas du tout fiable. Le seul truc fiable, c'est la prise de sang. Je le sais parce que ma mère est médecin.
Ta mère est kiné, Alice, alors on va faire confiance au petit bout de plastique.
Ta mère est kiné ?
Ouais.
Bon allez Loulou, lève-toi là.
Non je suis bien là, c'est frais.
T'es belle. Je t'assure, t'es belle.
Oh putain, c'est de la poudre. Ah, c'est du curry, c'est du curcuma. C'est fou ce truc. C'est pas un peu dégueu de mettre ses doigts là-dedans? Bon, en tout cas, à mon avis, il est pas réutilisable celui-là. Hein.
Mais t'es belle, t'es tout en rondeur, t'es.
Mais dis-tu que je suis grosse?
Mais non, mais c'est... Et nous, ça nous excite, hein, les mecs. Hein, c'est...
De quoi, les grosses ? Si vous obtenez un résultat enceinte, il est possible que vous receviez ultérieurement un résultat négatif en raison d'une fausse couche.
Ah oh bah ça, mais ce serait l'idéal, ce serait top.
Par exemple, je suis sûr que t'as les seins hyper fermes, là. Hein ? Ça m'excite un peu, là. Là, je pourrais te faire l'amour très fort, là.
Mais arrête, c'est dégueulasse, putain, t'es mon pote.
Moi, je veux te dire, de toute façon... Est-ce qu'elle a bu ce week-end, à mon avis, ça tiendra pas. Ça accroche pas.
Ah bah ça accroche. C'est sûr, vas-y, va se barrer le pied.
Impossible.
Impossible.
Je crois que je vais le garder.
Loulou, alors là, on a entendu un tiers d'épisode. Presque 2 minutes d'extrait. Donc, Iris Bray, on est, oui, un tiers d'épisode.
Oui, c'est à peu près ça.
Mais... Vous aimez beaucoup. Vous l'avez écrit aussi dans les colonnes des Arocs.
Oui, moi, je trouve ça très pétillant et sautillant. Et je suis enthousiasmée par cette écriture et ce personnage-là et ces aventures d'une jeune femme de 30 ans qui tombe enceinte. Et c'est pas prévu. Et finalement, on s'en fiche complètement. En fait, le sujet ne va pas être est-ce que je le garde ou est-ce que je le garde pas. Ça va être, eh bien, j'ai un ventre qui va s'arrondir et comment est-ce que ce ventre qui s'arrondit va avoir un impact, sur mon entourage, mais aussi des inconnus dans la rue ou un barman breton que j'ai trouvé très très drôle. Et donc, je trouve qu'elles ont ces trois femmes qui ont créé la série ont su dépasser tous les stéréotypes auxquels on pouvait s'attendre. Tiens, la voir avec une échographie, puis elle est émue. Non, tout ça, il n'y a pas. Et ça fait du bien. Et je trouve ça vraiment très réjouissant.
Mais est-ce que ce n'est pas aussi, on va faire le débat là-dessus pour partie, l'intérêt de la web-série aussi que d'aller au fait ? Parce que le format serait-il plus long ? Peut-être qu'on aurait eu l'échographie.
Non, je ne pense pas. Je pense qu'elle ne serait absolument pas tombée là-dedans. Après, c'est sûr que là, on est plus dans des pastilles. Donc, je pense que l'écriture, en tout cas le rire, vient différemment. Ce qui m'intéresse, peut-être que ce que j'aurais aimé voir un peu plus, c'est peut-être que s'il y avait eu des épisodes plus longs, on serait arrivé à ça. À la fin de l'épisode, par exemple, où Loulou se déguise en Daenerys, donc de Game of Thrones, pour des photos d'elle enceinte, parce que c'est quand même quelque chose que beaucoup de femmes enceintes font, hein, se faire prendre en photo avec ce ventre arrondi. Donc déjà là c'est juste génial, très très drôle. Mais à la fin de cette séquence, elle se retrouve sur un banc avec une femme trans. Et donc
qui a la meilleure réplique de la série, hein.
Ouais, exactement.
Parce qu'elle commande il faut le dire, un Uber.
Alors oui, alors il y a le Uber et on peut pas avoir son Uber et l'argent d'Uber, mais surtout c'est la réplique d'après.
On peut pas avoir l'Uber et l'argent d'Uber, sinon c'est pas drôle, Iris.
Oui, non mais moi je ne suis pas je ne suis pas comédienne, ah ouais. En fait. Mais c'est c'est justement la réplique juste après qui m'intéresse et qui est elle, en fait, Loulou aime pas c'est toute cette séquence photo et elle dit c'est pas beau sur moi, je me sens pas cohérente. Et là, il y a cette femme trans qui la regarde et qui lui dit juste je comprends. Et c'est ces petits moments-là, en fait, où finalement on n'est pas dans la vanne, on n'est pas dans l'humour, on va beaucoup plus loin. Et ça, c'est dans ces moments-là où moi je suis un peu désarmée et je suis totalement conquise par le projet.
Olivier Joyard sur Loulou.
C'est mon moment préféré de la série dont vient de parler Iris, qui dure donc 35-40 secondes, et pourquoi pas, parce que là on touche à quelque chose qui est de l'ordre, elle dit voilà ce corps il me va pas, et donc cette femme trans à côté d'elle lui dit bah, je sais ce que c'est, là il y a quelque chose qui se joue, qui moi m'émeut, et qui crée un personnage pour moi, c'est-à-dire que le reste du temps, je suis beaucoup moins enthousiaste que Kiris sur cette série. Je trouve qu'on est quand même dans cette... Alors, c'est ce que parfois certaines web-séries, c'est aussi à cause de la durée. Donc, on est plus proche de la short-com, c'est-à-dire de l'accumulation de sketchs à la suite, que d'un récit qui ressemblerait, disons, à un récit sériel comme on peut s'y attendre, ou même un récit sériel un peu particulier. Il y avait Les Engagés il y a quelques mois, qui peut avoir certains défauts, mais qui était pour le coup extrêmement structuré avec des épisodes de 9 minutes, donc c'était un peu plus long, qui racontait vraiment une histoire finalement assez complexe. J'étais impressionné, moi, par la densité. Là, la densité, elle vient d'autre part, et en fait, tout repose sur le jeu de l'actrice principale, sur une certaine qualité de punchline, c'est-à-dire vraiment c'est de l'humour d'aujourd'hui, un peu vachard, un peu on va contre les clichés effectivement, mais moi il me manque vraiment quand même quelque chose qui serait de l'ordre d'une épaisseur humaine ou de moi j'ai vu des clichés sur la grossesse dans cette série, et c'est finalement cette idée que voilà, on grandit, on a 30 ans, est-ce qu'on va avoir un enfant, cet enfant arrive, enfin, c'est quand même des trucs, on a l'impression presque de lire un article de magazine féminin, ou pas féminin d'ailleurs, sur cette question-là, par moment.
Ouais. Je vous trouve assez dur quand même,
Romain Burel,
pour le coup, parce que par exemple, moi je me rappelle pas avoir vu au cinéma, dans une série, poser la question de savoir si on peut fumer et boire quand on est enceinte quand même.
Bah, là, aussi, mille fois, c'est un mauvais exemple.
J'ai pas d'exemple, là, pour le coup, je trouve que c'est assez bien posé, et que ça montre je trouve qu'elle a une façon d'être enceinte, de se poser des questions sûrement métaphysiques, mais il y a quelque chose d'assez touchant chez cette fille de 30 ans qui se trouve encore trop jeune pour tomber enceinte, je trouve, parce que finalement c'est un peu ça le cœur de la série, ça m'a assez touché en fait.
Olivier ?
Non, je veux bien qu'on trouve ça touchant. C'est pas le simplement. Moi, je trouve pas qu'il y a une direction dans l'écriture qui soit assez. C'est très bien écrit, dialogué. Voilà, en fait, c'est vraiment hyper drôle. C'est vraiment drôle. Moi, j'ai pris quand même du plaisir à regarder cette série. Mais simplement, voilà, je trouve qu'on est. Il y a peu de séries dites féminines en France. C'est aussi parce que les chaînes ne leur laissent pas le droit. Enfin, on dit, bah voilà, c'est pour une niche. Vous n'avez pas le droit de vous emparer de ce sujet. Il y avait Working Girls dans un autre registre.
Nous verrons bien Paris, etc. dans pas longtemps, ce que ça va donner.
Effectivement. Ça sera une première série
réalisée
avec un regard féminin.
Zabou Bretman et écrit avec Anne Berest et qu'un casting féminin. Ouais. On attend ça. Ce sera au sommaire d'une prochaine émission.
Donc moi, j'ai presque envie de voir une deuxième saison de Loulou, ou je ne sais pas ce qu'elles vont faire ensuite, s'il y aura des épisodes peut-être plus longs. Ça m'intéresserait beaucoup de voir l'après.
Iris Bray ?
Ben, je ne suis pas du tout d'accord avec Olivier Joyard. Je pense qu'on ne voit absolument pas ça dans les magazines féminins. On ne voit pas trois copines qui détruisent un test de grossesse pour comprendre ce qu'il y a dedans et qui se rendent compte qu'elles se retrouvent avec de l'urine sur leurs mains. Enfin, on ne voit pas non plus une femme enceinte qui drague un mec dans un bar sans se poser la question de « je suis enceinte, j'ai un ventre » et puis finalement le mec fait... Enfin, lui, il s'en fiche. Enfin, c'est des choses... Non, donc on ne voit absolument pas dans des magazines féminins.
J'ai l'impression que c'est vraiment le discours d'aujourd'hui. Il faut être décomplexé par rapport à ce qui nous arrive, à être casser les clichés, etc. Mais bon, je ne veux pas leur reprocher éternellement de faire ça, mais moi, je ne suis pas ultra surpris de voir ces femmes. Je les connais, en fait. J'ai l'impression de les connaître. Et j'ai envie, moi, d'être plus bousculé, en fait, par ce que je vois. Et plus, on disait tout à l'heure, Fincher va peut-être pas assez loin. Là, j'aimerais que ça aille peut-être un peu plus loin. Je sais pas, ça me... Tout ce que vous dites, je l'entends. Hein.
Ce qui m'a touché, justement, c'est qu'il y avait une certaine justesse et mesure dans ces gags, dans ce qu'elles racontaient, etc. Mais j'entends les qualités d'écriture qui font que c'est peut-être un petit peu ramassé, etc., mais qui tiennent au format, quoi. Je crois vraiment ce que je reprocherais, en fait, le seul problème que j'ai avec cette série, c'est que, en fait, j'en veux plus, et je me dis que c'est une très très bonne idée, il y a une équipe géniale, qu'il y a une façon d'écrire qui est vraiment nouvelle, vraiment neuve, et on se retrouve à coincer ça sur une web série, dans un format court, et je me dis, mais voilà, quand est-ce qu'une chaîne va se dire, mais en fait, j'adore parce qu'elles ont tourné, en fait, deux premiers épisodes, qu'elles ont montré à Arte, qui a convaincu la chaîne, mais qu'on leur dise banco, qu'on leur dise directement, on vous commande une saison entière avec des épisodes de 30 minutes, parce que c'est ça que j'ai envie de voir.
Qu'est-ce que ça donnerait ? On n'en sait rien pour le coup.
Oui, mais déjà, rien que
l'efficacité, là, elle est sur les 6 minutes. Sur les 5,
oui, mais déjà le fait que personne n'en ait voulu, qu'elles aient dû trouver l'argent toutes seules pour pouvoir raconter ça, moi je trouve que ça dit quelque chose quand même. Elles sont tenues.
Ça, rien de nouveau. Hein.
Ah bah oui, rien de nouveau, mais elles, je trouve qu'elles bousculent en fait. Peut-être que Olivier Joyard trouve qu'elles bousculent pas assez dans ce qu'elles racontent et ce qu'elles montrent, mais en tout cas déjà ça bouscule de voir ça aujourd'hui. Et après, je pense que le fait qu'on ait l'impression de qu'on se reconnaisse dans ces personnages-là, ça veut dire qu'elles ont réussi quelque chose puisque finalement elles nous paraissent familières, on les connaît. Et moi je me reconnaît très très peu dans la fiction française, dans les personnages féminins d'une trentaine d'années. Donc voilà, je trouve que c'est assez fort pour un premier essai.
Et puis il y a un épisode moi, que j'ai trouvé assez savoureux, c'est un épisode où on la voit chanter un peu façon, l'épisode s'appelle Loulouland. Ouais. Et cette façon d'arriver quand même sur des formats très très courts et très ramassés, de casser un petit peu le code sur un épisode et de la faire chanter, ça m'a assez plu, même si pour le coup c'était ce qu'elle nous chante, c'est un peu du sous Michel Berger, de façon je vais pas bien dans ma peau parce que je suis enceinte, mais j'ai trouvé ça assez savoureux.
Oui, alors moi j'ai plutôt apprécié le visionnage de Loulou, sans me reconnaître ni dans les avis de certains ni ceux d'autres. Mais alors pour le coup, Loulouland, pour moi, c'est vraiment pas le bon exemple parce que c'est vraiment céder à la facilité. C'est très simple de faire ça et ça fait un épisode et comme ça fait un épisode en moins à faire. Non, mais bien sûr, il faut l'écrire, il faut le mettre en scène. Enfin, c'est quand même pas ça qui est le plus surprenant des épisodes chantés. On peut en voir dans d'autres web-séries, voire certaines séries. Mais il y a une chose que j'adore, moi, c'est la voix de Louise Massin, mais la voix parlée de Louise Massin, qui fait qu'elle a une présence, parce qu'on parle du corps, il est important, le corps de cette jeune femme. Je trouve qu'elle a un potentiel, mais que j'aimerais voir effectivement davantage que dans la réplique qui fait mouche, pour ne pas dire punchline, pour rester dans le français. Mais je suis comme vous, moi, j'aimerais qu'il y ait plus de temps, qu'il y ait évidemment moins de frilosité de la part des producteurs et des diffuseurs, mais éternel débat, est-ce que ça va 500 000 épisodes vus chaque fois sur quand c'était sur Facebook, 500 000 spectateurs par épisode. Les chaînes devraient se dire qu'il y a peut-être un potentiel là. Moi, je recommande vivement de s'intéresser à ces trois jeunes femmes qui écrivent cette Loulou. Mais je suis un peu sur ma faim. Et là, c'est là que je rejoindrai un peu plus Olivier Joyard. J'avais envie qu'elle soit plus influencée par Larry David dans le très incorrect et dans le très surprenant. Bah, Larry David me surprend beaucoup plus que Loulou. Si on met en regard ces deux séries dont on vient de parler,
moi, honnêtement,
comprenez Romain Burel.
Comme disait Iris, de voir une femme, une jeune femme enceinte draguer ouvertement un autre homme, je ne me rappelle pas l'avoir vu souvent. Pour le coup, je trouve ça très incorrect.
C'est pas mal, c'est vrai. Mais c'est comme les femmes enceintes qui boivent ou qui fument, il faudrait que je vous fasse une liste, mais elle serait extrêmement longue. On pourrait demander à nos auditeurs de nous dresser. Oui, hein, Boris Pinot, vous faites un appel.
Lançons l'appel.
Envoyez-nous les listes de films, séries où des femmes enceintes boivent et fument très ouvertement.
Là, ce qui est intéressant, c'est que quand elles boivent et fument, on s'en fiche. Enfin, ce n'est pas justement un propos, ce n'est pas regarder comme je fume.
Si, parce qu'elle attrape deux coupes de champagne. Et qu'elle les boit parce qu'elle est énervée. Et qu'elle dit, voilà, vous occupez pas de moi, je bois.
Mais je sais
qu'elle
pas.
Qu'elle fait, Loulou.
Oui, c'est ce qu'elle fait, Loulou. Mais je veux dire, la cigarette, c'est son petit ami qui lui dit qu'elle devrait pas fumer. Mais ses copines, elles, vont jamais lui dire ça. C'est comme si, tiens, prends une clope. Enfin, il y a quelque chose comme ça où je trouve que, justement, parfois, c'est dans ces petits gestes-là où on voit quelque chose. Oui, elle pourrait aller plus loin. Et je pense j'espère qu'elles le feront. Mais je trouve que déjà... elles ont réussi à camper un personnage et Louise Massin a réussi à incarner cette Loulou. C'est basé quand même sur sa grossesse, ce qui est dit dans le générique, donc ça doit sûrement aider. Mais on a peu en fait aussi des figures féminines et des actrices féminines qui jouent aussi avec leur corps, avec leur phrasé, mais avec leur corps.
Je suis d'accord là-dessus. Vous voulez dire un dernier mot, Olivier Joyard ?
Ça va me faire culpabiliser.
Mais non, pas culpabiliser.
Non, mais il y a tellement effectivement peu de représentations de femmes dans des situations inattendues aujourd'hui dans les séries en France, même au cinéma, que on ne peut qu'être content que ça existe. Moi, simplement, voilà, j'ai une légère frustration dans la façon dont c'est peut-être mis en scène, et c'est plus cette culture de la réplique qui tue, qui pour moi prend plus de place qu'une réflexion peut-être globale sur la construction de personnages.
Mais ça, je pense que le format n'y est pas pour rien quand même.
C'est tout à fait possible, mais...
Parce qu'il faut de l'efficacité.
Il y a une solution à trouver et je ne sais pas, c'est peut-être pas du tout de la faute des créatrices.
Bon, on va peut-être la marier avec Blanche Gardin pour voir ce que ça donne. Ça pourrait être assez détonnant parce qu'en voilà une aussi qui met des choses, alors pour le coup, incorrectes et qui sont extrêmement réjouissantes.
Surtout quand elle parle de Polanski.
Par exemple. Vous avez, tiens, en 30 secondes, une autre web-série à recommander, tiens, puisque vous faites la maligne, Iris
Bray. Ah oui,
Bray.
Féminin de Chloé Robichaud, qui est une cinéaste canadienne qui avait fait un film qui s'appelait Sarah ouais. préfère la course et qui a fait une là, deuxième saison de Féminin.
Olivier Joyard, un conseil de web-série.
Les Engagés.
Les Engagés.
Ouais, c'est Studio 4.
Et Romain Burel.
S'engager, c'est vraiment très très bien. Maintenant, je viens d'oublier le titre d'une excellente série belge sur la bisexualité.
Non.
Dont j'ai oublié le titre. Je me promets de le mettre sur Twitter dès que je sortirai de l'émission, et qui était vraiment très très jolie, qui montrait pour le fois, d'une manière assez sensible, ce que c'était d'être partagé entre une femme et un garçon.
Bon, on récapitulera vos conseils aussi sur la page internet de La Dispute. Loulou d'Alice Vial, Louise Massin, Marie Lelong, disponible sur Arte TV. Et avant de conclure tout à fait l'émission, le jeu de la dispute, on commence par un rappel du jeu, alors non pas d'hier au soir, mais d'avant-hier. Hier soir, il n'y avait pas d'émission. Pour en connaître la réponse, Grégoire Desfiore, vous nous rafraîchissez la mémoire.
Quel artiste a fait pleurer certains visiteurs du MoMA lors d'une performance en 2010 ? La réponse était Marina Abramovic.
Ce soir, on fait gagner des invitations pour mon premier festival qui se déroule du 25 au 31 octobre dans 14 cinémas parisiens. Quelle est la question ?
Quel personnage de la Commedia dell'arte est mis en mouvement dans un des premiers dessins animés du cinéma ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales sont à envoyer par mail à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission, y compris donc la web-série qui sera recommandée par Romain Burel, sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de La Dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter l'émission et bien sûr vous abonner à son podcast. Vous pouvez préparer vos commentaires pour l'émission de lundi en allant tout de suite sur le Facebook La Dispute FC ou si vous attendez le direct, ce sera lundi 19h sur le compte Twitter Dispute FC. Lundi 19h, une dispute consacrée au spectacle vivant en compagnie d'Anna Segalevitch, Fabienne Pascaud et Jean-Christophe Briançon. À notre affiche, Vania, adaptation mise en scène de Julie Deliquet, c'est au Vieux Colombier pour la Comédie Française. Ex Anima, un nouveau spectacle de Bartabas au théâtre Zingaro d'Aubervilliers. Et puis la reprise de Ceux qui restent, mise en scène et conception David Lescaut au théâtre Déjazé.